avant qu'on évoque plus longuement Proust, roman familial paru chez Robert Laffont, vous avez fait paraître en 2015 une enquête sur une passion littéraire, la relecture. Ça s'appelle Relire. Combien de fois avez-vous relu À la recherche du temps perdu de Marcel Proust?
Pas tant que ça, je l'ai relu 4 fois. Enfin, à vrai dire, je l'ai lu.
2800 pages, quand même.
Oui, quand même.
Quand même. Quand même.
Oui, 4 fois. Mais vous voyez, quelqu'un comme Jean-Yves Tadié, qui est le grand spécialiste de la recherche, il l'a lu 6 fois. C'est pas tant que ça.
Très bien. Tout est relatif, Laure Murat. On va découvrir votre portrait réalisé par Gaël Legras et on reparle après de ce Proust roman familial absolument sensationnel.
L'aristocratie, travailler, Proust, c'est la règle de trois de Laure Murat. Selon elle, l'aristocratie est un monde de pure forme. Sa mère descend du duc de Luynes, le favori de Louis XIII. Son père est le prince Napoléon Murat, arrière-arrière-petit-neveu de l'empereur. Laure Murat, née en 1967, scolarisée à l'Institut de l'Assomption, elle grandit dans un appartement du 16e arrondissement de Paris. Au 2e étage, les enfants et leurs nurses, au 3e, les parents. De ma mère, jamais un baiser dont elle exécrait jusqu'à l'idée même. Dans son milieu, on se tient bien. Laure Murat ne s'y conforme pas. À l'âge de 19 ans, elle quitte sa famille. Quelques années plus tard, elle invite sa mère à déjeuner et lui dit qu'elle vit avec une femme. Réponse : tu incarnes à mes yeux l'échec de toute une éducation morale et spirituelle et, pour moi, tu es une fille perdue. Contrairement au rentier de son entourage, Laure Murat veut travailler. Elle écrit des articles dans une revue consacrée aux arts, devient critique et donne des cours. Elle publie également ses premiers livres. En 1992, à l'âge de 25 ans, dans les grandes demeures de France, elle sélectionne 50 châteaux privés, dont celui d'Arouet, près de Nancy.
C'est un vrai palais à la campagne, entouré en plus de douves, avec d'anciennes fonctions défensives, en fait, ce qui donne une caractéristique très particulière à Arouet, un caractère, à mon avis, très original.
En 2003, dans Passage de l'Odéon, elle s'intéresse aux libraires Adrienne Monnier et Sylvia Beach. Ces femmes qui vivaient ensemble ont animé la vie littéraire de l'entre-deux-guerres.
Hemingway a été publié pour la première fois dans la revue d'Adrienne Monnier. Et évidemment, leur grande œuvre, c'est d'avoir publié Ulysse de James Joyce.
Laure Murat a rédigé de nombreux essais. Depuis 2006, elle enseigne la littérature française à l'université UCLA de Los Angeles. Elle lit Proust pour la première fois vers l'âge de 20 ans. Elle considère que le romancier a changé sa vie en lui donnant la lucidité. Plusieurs personnages d'À la recherche du temps perdu sont inspirés par des membres de sa famille. Page 78, elle écrit « En dévoilant les arcanes du milieu où j'étais né, Proust donnait enfin corps et relief à tout ce qui m'entourait et dont je n'avais eu jusque-là qu'une perception floue, indécise. »
Eh bien, tout s'est affiné, semble-t-il, grâce à cette lecture. La lecture de Marcel Proust, qui a été au début de son existence chroniqueur mondain pour Le Figaro, qui était fasciné par l'aristocratie, Laure Murat, mais qui est devenu très féroce, très sarcastique et désillusionné. Vous dites que cette lecture de Proust, qui évoque votre milieu d'origine, noblesse d'Empire et noblesse d'Ancien Régime, a eu l'effet d'un accélérateur de désaliénation sociale pour vous. Dites donc, c'est fort. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, en général, on dit que Proust est plutôt un accélérateur de particules. Mais dans mon cas, ça a été un mouvement de dessillement par rapport au milieu dans lequel j'avais été élevée. Milieu qui est un milieu très privilégié, bien sûr, où il y a d'ailleurs des choses très... Enfin, c'est une éducation qui n'est pas... qui peut être tout à fait acceptable. Voilà, il y a des choses bien dedans. Hein. Tout n'est pas mal là-dedans. Mais il y avait comme une sorte d'angoisse que je ressentais, qui était une sorte de vacuité, qui est surtout née du mensonge social, qui est à peu près permanent. Et c'est un monde de représentation, qui est en représentation. C'est ce que je dis dans le livre.
C'est les mots sans le réel. C'est ce que vous dites à un moment donné.
Oui, ça, je le dis... En réaction à un entretien avec Annie Ernaux, où une journaliste lui avait demandé de résumer ce qu'avait été sa vie dans son enfance et son éducation, et elle dit le réel sans les mots.
Ça. Et vous, c'était
moi,
le contraire.
J'ai compris que c'était exactement le contraire, que je barbotais dans un bain de phrases et que tout était passé au tamis de la parole, de la conversation, mais où. Jamais, les choses n'étaient jamais dites.
Mais alors, au-delà de ça, il y a un ébranlement secondaire, je dirais, c'est de découvrir que l'on a, que vous avez des liens de parenté avec des personnages de fiction.
Ça,
vous découvrez en lisant les 3000 pages de la recherche que, par exemple, vos ancêtres, eh bien, ce sont le duc et la duchesse de Guermantes, Oriane et Bazin. Mais ce sont des personnages de fiction. Qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça, en se disant, où est le réel Et où est la fiction ?
C'est assez vertigineux, en réalité, parce que Proust mélange les personnages de fiction et les personnes réelles, dont beaucoup appartiennent à ma famille. Mais surtout, il enchâsse à l'intérieur de généalogies fictives des noms réels. C'est comme ça que je me suis rendu compte, en cherchant beaucoup, en me raccrochant à toutes les branches, que, au fond, je descendais du duc et de la duchesse de Guermantes. Alors évidemment, c'est très vertigineux quand on lit la recherche, parce qu'on est constamment sur une sorte de crête, et on ne sait plus très bien, entre ces gens qui sont tout le temps en représentation et qui sont nommés véritablement dans la recherche, et les personnages de fiction qui me rendaient au réel de mon milieu, où et quoi. On ne sait plus très bien.
Benjamin.
Alors vous dites quand même, il y a une forme d'âpreté quand même pour entrer dans la recherche du temps, recherche du temps perdu, et vous dites, c'est comme un bain froid, il faut accepter de s'y plonger. C'est comme ça aussi, même vous avez eu un moment de saisissement au début ou pas ?
Avant la lecture ?
Ouais.
Le premier volume n'est pas le plus facile. Le premier volume est un peu raide, disons. D'ailleurs, il avait beaucoup choqué à l'époque. Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui ne veut pas s'endormir, qui
sans que sa maman vienne l'embrasser, etc.
Sur des dizaines de pages, etc. etc. C'était quand même très déstabilisant à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est évidemment beaucoup moins. Mais c'est vrai que le premier volume est un petit peu difficile. Alors, il y a des gens, beaucoup de gens craignent presque de rentrer dans la recherche. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que, il y a eu une glose énorme, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été écrits sur la recherche. Et je crois qu'il y a un effet d'inhibition par rapport à ça. Il y a des gens qui commencent par le deuxième volume. Il y a des gens qui commencent par le dernier volume.
Et qui
beaucoup de gens m'ont dit, depuis que je fais mes tournées en France, qu'ils avaient réussi à rentrer dans la recherche grâce aux enregistrements, par exemple. Ça, c'est une très belle courroie de transmission. Quelquefois, on commence avec l'audio et on finit par la lecture. Il y a toutes sortes de choses. Il y a un âge aussi, je crois, auquel on lit Proust.
Ah bon ?
Il y a des âges où ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas insister. Il ne faut surtout pas insister. Et un jour viendra.
Un jour, ça se déclenche. Laure Murat, dans Proust, roman familial, vous évoquez votre sortie du placard. D'ailleurs, on a vu la réaction de votre mère et votre sortie du château, d'une certaine manière, qui ont coïncidé, si je puis dire. Et vous revenez beaucoup, et de manière extrêmement subtile, sur le fait que Proust a été l'un des premiers à mettre l'homosexualité, la race maudite, comme il les appelait, au centre. Ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Et vous dites, par ailleurs, les seuls vrais homosexuels dans la recherche, ce sont les lesbiennes. Et pourquoi pas les Charlus et les Jupiens et les autres, des hommes ? Pourquoi
Parce que les hommes, l'homosexualité masculine est décrite comme une forme d'inversion.
Ouais.
Inversion sexuelle, qui était une théorie très classique à l'époque, on appelait ça le troisième sexe. Mmh. Et donc, c'est l'idée d'avoir une âme de femme dans un corps d'homme ou une âme d'homme dans un corps de femme. Et évidemment, l'efféminé va aller vers le viril. Et c'est au fond reproduire une sorte de schéma hétérosexuel. Il n'y a rien de tout ça chez les lesbiennes. Les lesbiennes sont attirées par le même, c'est-à-dire le même sexe et le même genre. Et il n'y a pas des histoires de lesbiennes viriles, lesbiennes féminines, etc. Comme il pouvait y avoir d'ailleurs dans d'autres livres fin de siècle, comme Catulle Mendès, par exemple, ou des gens comme ça, qui écrivaient des sortes de romans impensables, avec la blonde et la brune, la féroce et la timide, enfin, etc., etc. Toujours dans la recherche du modèle hétérosexuel. Proust échappe complètement à ça.
Alors, on va revenir à Proust aujourd'hui. La proustolatrie touche de nombreux domaines. Vous allez voir avec Anna quelque chose d'absolument stupéfiant à Illiers-Combray, qui est le seul endroit de France, le seul village de France à avoir un nom à la fois réel et fictif, puisque Combray est le nom que Proust a inventé. Eh bien, à Illiers-Combray, il y a quelque chose qui s'est produit récemment et qui nous souffle.
Oui, on vient de le dire. Éoliennes, le Conseil d'État vient d'enterrer un projet éolien qui aurait dû voir le jour à 5 km d'Illiers-Combray dans l'Eure-et-Loire, car Illiers-Combray, c'est l'endroit où Marcel Proust passe ses vacances des étés entiers, petit garçon, chez sa tante Léonie. Et c'est là aussi qu'il aurait imaginé, pensé les lieux et paysages de la recherche du temps perdu. Alors quand il y a 3 ans, une société prévoit d'installer 8 éoliennes de 150 mètres de haut dans les plaines alentours, la mairie et de nombreux opposants disent non pour empêcher que le paysage ne soit défiguré. Donc une longue bataille juridique s'ensuit. Le Conseil d'État finit par trancher. Le projet est rejeté au motif qu'il s'agit d'une atteinte significative à l'intérêt paysager et patrimonial du territoire. Alors, le maire de la commune voisine de Montigny, le Chartif, qui devait accueillir les éoliennes, est déçu. Et il a même déclaré « Je ne suis pas sûr que Marcel Proust, à l'époque, aurait été contre. Il aurait peut-être pu vivre avec son temps et pas avec 200 ans de retard. » Laure Murat, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Alors, c'est vrai que Proust était très fasciné, très intéressé par les nouvelles technologies, ouais. Le théâtrophone, la photographie. Il s'intéressait beaucoup à l'automobile, l'aviation, etc.
Demoiselle du téléphone.
Et voilà. Et il n'était pas du tout cet homme, voilà, enfermé chez lui, qui ne voyait rien, qui n'entendait rien, et qui pas du tout. Il était très très avide de ça. Maintenant, je ne peux pas le faire parler sur cette histoire de.
Nous n'avons pas d'intelligence artificielle à disposition.
Il y a eu un article qui a été publié sur cette question. Qui est quand même assez extraordinaire. J'ai trouvé que le titre était très drôle. C'était « Quel dommage que Marcel Proust n'ait pas décrit tous les paysages de France. » On serait protégé des éoliennes.
Toutes les éoliennes.
La proustosphère. Une dernière question, Laure Murat. On découvre donc dans ce Proust roman familial que Proust vous a aidé à vous émanciper. Proust vous a sauvé la vie. Proust vous a consolé, comme il a consolé d'ailleurs un certain nombre de gens, des écrivains au Goulag, je pense à Chalamoff, Georges Semprin qui partait à Auschwitz et d'autres. Une grande dimension consolatrice. Une dernière chose, vous êtes pudique, il semble, il paraît, dire « je » dans un récit où vous êtes aussi presque impudique sur votre origine sociale, sur votre sexualité, ça a été compliqué. Le narrateur dit 18 000 fois « je » dans la recherche, mais c'est le narrateur, là c'est vous.
Oui,
ça a été dur de dire « moi, je » ?
Non, dire « je » ne m'a pas posé de problème. Le problème, c'était de connaître la limite. Jusqu'où aller. Je pense qu'au départ, je n'allais pas suffisamment loin. Il a fallu pousser un peu plus, ce que j'ai fait, sur les conseils de deux amis qui ont lu le manuscrit, qui m'ont dit non, il faut aller davantage, voilà, plus profond. Ce que j'ai fait. Je crois qu'il n'y a pas d'impudeur dans tant que vous dites les choses justement, enfin, ou en tout cas, vous essayez de les dire justement. Et surtout, ce qui m'a sauvé, encore une fois, c'est de faire, non pas une autobiographie, mais disons un récit autobiographique à la lumière de Marcel Proust. Donc, j'ai pris dans ma vie tout ce qui était pertinent et ce qui pouvait avoir un écho avec le livre, puisque ce livre, c'est quel est l'impact de la recherche du temps perdu, quel impact il peut avoir sur une vie.
Sur quelqu'un. Et vous le traitez de proustidigitateur. Superbe formule. Voilà, c'est cher Robert Laffont, Proust roman familial.